for.
Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce grand direct, 120e émission de ce mardi 14 novembre. À mes côtés pour vous servir ce soir, Fabio, Daniel et Tania, une des nouvelles voix du grand direct. Bonsoir à tous et bonsoir à toi Tania.
Bonsoir.
Bonsoir.
On va commencer cette émission avec toi Fabio et dans Vivre à Lausanne, nous parlons de l'espace.
Et l'espace, un lieu d'accueil de jour pour personnes marginalisées ou vivant dans la précarité. Et pour le faire, j'ai interviewé Eliane Belser, qui est la responsable de l'aide d'urgence à la ville de Lausanne.
Voilà, donc on donne un coup de main, un petit coup de pouce d'urgence tout à l'heure dans Vivre à Lausanne avec cette fondation de l'espace. Dans 20 minutes, La Rose des Vents est le dernier volet de notre série consacrée à l'Inde. Daniel, nous recevons ce soir l'une des intervenantes de la semaine dernière, Ruby Bakshi Kurdi, pour son portrait.
Ce sera l'occasion de découvrir en fait la trajectoire d'une femme engagée d'origine du Cachemire. Et il y a une citation d'Amin Malouf en fait qui montre finalement le chemin qu'elle semble avoir choisi. Et si on croit en quelque chose, si l'on porte en soi-même suffisamment d'énergie, suffisamment de passion, la vie est belle et continue.
Oui, c'est une belle introduction, on en parlera plus dans une vingtaine de minutes. Enfin, tout à l'heure à 7h20, Cultiver Lausanne, nous parlerons, Tania, d'une association, elle s'appelle Zebra.
Oui, effectivement, on va parler de l'association Zebra, qui est active dans le domaine du cinéma et de la vidéo. Et pour parler de ça, on aura deux invités, Jean-Luc Rochat et Stéphane Kuntop.
Parfait, voilà pour ce qui est du menu de Cultiver Lausanne. Le lieu d'accueil, l'espace, le portrait de Ruby Bakshi Kurdi et l'association Zebra. C'est le programme de ce grand direct à écouter sur radio.django.fm et en DAB sur La Fabrique. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h comme tous les mardis. Soyez les bienvenus dans ce grand direct.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Et aujourd'hui, dans notre série Comprendre Lausanne, nous allons plonger dans le dispositif d'aide d'urgence de la ville. Pour cela, Fabio, tu as rencontré Eliane Belzer pour parler de l'espace, un lieu d'accueil de jour pour les personnes marginalisées et vivant dans la précarité.
Oui, Eliane Belzer, qui est responsable de l'aide sociale d'urgence à la ville de Lausanne, elle coordonne les différentes prestations en faveur des personnes en grande précarité et sans domicile fixe. Elle va nous présenter l'espace, comme tu l'as dit, ce lieu qui a été créé en 2012. Mais actualité oblige, d'ailleurs les médias en ont beaucoup parlé à la fin de la semaine dernière, il me semble essentiel, avant de nous immerger dans ce lieu d'accueil diurne, de demander à notre invité qu'en est-il des hébergements d'urgence pour les sans-abri pour la nuit.
Alors effectivement, la presse a fait écho de cette problématique ces derniers jours. On a effectivement assez régulièrement, en début d'hiver, à partir du moment où il commence à faire froid, et puis également aussi au printemps, quand une partie des structures ferment, on a effectivement beaucoup de personnes qu'on peut trouver en rue, que le dispositif existant n'arrive pas à loger. On a effectivement, je dirais maintenant, à peu près 40 à 50 peut-être 60 personnes qui ne trouvent pas de place dans les deux structures qui sont ouvertes aujourd'hui, la Marmotte et le Sleep-In. Mais on a la chance de pouvoir ouvrir donc l'abri, la protection civile à la Vallée de la Jeunesse, demain, pour 5 mois et demi, qui permettra d'accueillir 50 personnes. Donc j'espère aussi de détendre un peu la situation et puis de permettre à ces personnes, une partie de ces personnes, d'être au chaud.
On revient donc à notre sujet sur l'espace, qui présentait plus en détail la fonction de ce lieu.
Alors je peux peut-être déjà vous dire que ce lieu fait partie en fait d'un dispositif qui est censé protéger les personnes très vulnérables, précarisées. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est la protection de ces personnes qui sont des personnes en rue, sans logement, sans travail, parfois aussi sans papier, sans statut légal. Et puis à qui on essaye d'offrir toute une série de services pour assurer le minimum vital pour ces gens-là. Donc il y a les hébergements dont on a parlé, il y a la nourriture, il y a les soins, il y a le fait de pouvoir se laver, le fait d'être écouté, conseillé, et puis la possibilité de pouvoir se réfugier quelque part la journée au chaud, dans un lieu agréable, accueillant, avec quelque chose à boire, à manger, une collation. Donc l'espace, il est ouvert du mardi au samedi, tous les matins et les après-midi. Donc en gros, il est ouvert de 9h à 17h, avec une pause à midi. 6 personnes des éducateurs gèrent ce lieu. Donc ce sont tous des professionnels qui sont familiers avec les populations aussi précarisées, vulnérables, marginales aussi parfois. Et ces personnes ont la possibilité aussi de recevoir leur courrier dans cet espace-là. Donc il y a une boîte aux lettres, en fait, comme une case postale, permettent de recevoir leur courrier. Ils ont la possibilité aussi pour certains de déposer leur sac, leur bagage. Donc il y a une consigne qui existe. Tous les mardis, ils ont la possibilité d'être reçus par une infirmière sur place à l'espace qui fait un check-up de leur santé, qui répond à leurs questions aussi, prévention santé et puis soins santé. Tous les matins, en parallèle de l'espace, on ouvre un bureau qui aide toutes les personnes sans-abri à réserver ou à trouver un lit dans l'un des hébergements d'urgence ouverts. Tous les après-midi, ils ont la possibilité d'être accueillis un peu plus individuellement avec des demandes précises sur leur situation, sur leur statut, sur leurs droits, sur la possibilité de travailler. Donc c'est vraiment un mélange, si vous voulez, de matinée où on a ce qu'on appelle un accueil libre, où les gens entrent et sortent et viennent se réchauffer, discuter, boire quelque chose, jouer. On a des jeux de société, etc. Et puis les après-midi, on est vraiment plus dans l'accueil un à un, je dirais, avec des personnes avec qui on peut vraiment tenter de débloquer des situations.
Et cela concerne à peu près combien de personnes quotidiennement ?
Donc on a à peu près 130 personnes chaque matin. Et puis les après-midi, on est plutôt aux alentours de 15-20 persones. Parce que là, on est dans cette problématique un peu différente. Après, on a des personnes qui viennent là depuis longtemps, qu'on connaît depuis longtemps. Il y a des Suisses, il y a des gens du coin, il y a des personnes un peu âgées. Il y a ces personnes qu'on accueille depuis des années. Donc l'espace est ouvert depuis 6 ans, exactement 6 ans. Et puis il y en a d'autres qui sont de passage et qu'on voit un moment, puis qu'on ne voit plus. Ou qu'on voit un moment et puis qu'on voit plus, puis qui reviennent. Donc il y a vraiment quand même un grand, grand tournus, un grand brassage. Donc j'aurais de la peine à dire combien de personnes différentes ont fréquenté ce lieu depuis son ouverture.
Fabio, il y a plusieurs autres lieux à Lausanne qui s'occupent de personnes marginalisées. Comment se distingue l'espace dans ce tissu d'aide d'urgence ?
Oui, en effet, le tissu associatif en faveur de ces populations, la plupart du temps subventionné par les pouvoirs publics, est dense. Voici le mode d'emploi, en quelque sorte, que nous dresse Eliane Belzer de l'ensemble de ces structures pour saisir leur domaine d'intervention, somme toute assez ciblé. Et pour répondre à ta question, elle nous décrit ensuite quelle est la place qui revient à l'espace dans ce puzzle.
Ce que j'aimerais déjà dire, c'est qu'effectivement, à Lausanne, il y a un immense tissu associatif qui vient en aide à ces personnes en grande précarité. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment énormément de choses qui se font pour une ville de la taille de Lausanne. Ce qu'on a voulu créer avec l'espace, c'est un lieu d'accueil de jour, ouvert toute la journée. En fait, au moment où il a été créé en 2012, il n'existait aucun lieu d'accueil de jour à Lausanne, à part à l'époque l'espace Mosaïque, qui faisait un petit peu quelque chose de semblable à nous. ABS, c'est un lieu d'accueil, effectivement, mais c'est un lieu qui est vraiment destiné aux personnes consommatrices de substances et d'alcool. Donc c'est un lieu vraiment destiné à une population bien précise. Mère Sophia, c'est une association, une fondation qui sert des repas, puis qui gère différentes autres prestations, Macadam notamment, l'échelle. Donc elle est vraiment centrée, si vous voulez, pour cette population marginalisée, sur la distribution et l'aide alimentaire. La soupe populaire, par exemple, est ouverte le soir. 19h30, 21h30, pas la journée. Le Point d'eau, une association active uniquement dans les soins médicaux dentaires, infirmiers et l'hygiène. Alors effectivement, ils accueillent les gens, mais c'est vraiment très 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 spécifique, ciblé sur les soins et l'hygiène. Avec la Maraude, on a affaire à une prestation très différente, dans la mesure où elle n'est pas une prestation subventionnée par les pouvoirs publics. elle est une prestation de nature citoyenne, n'est-ce pas? Et puis, alors elle est mobile, c'est sa valeur ajoutée, je dirais. C'est une prestation mobile qui vient en aide aux personnes en rue avec l'apport de nourriture, de boissons, de sacs de couchage. Donc elle remplit un créneau, si vous voulez, que nous, structures fixes, ne pouvons pas offrir justement par cette mobilité. Et puis, point d'appui, c'est effectivement une prestation des églises à Césarroux. Ils font beaucoup de choses au niveau des CV, des écrivains publics, surtout ouverts les après-midi. Donc nous, on a voulu s'intégrer, si vous voulez, dans ce puzzle en proposant vraiment quelque chose d'un peu différent en termes de collation, petit déjeuner, dès ouvert dès le matin, parce que c'est vrai que les hébergements ferment à 8h ou 8h30, en fonction desquels, et puis qu'ensuite, eh bien, ces personnes sont dehors. Donc il s'agissait en fait de faire un peu le suivi des hébergements pour que les gens aient toujours finalement un point de chute, indépendamment de prestations de type soins, mais vraiment juste à un point de chute où on pouvait se poser.
Voilà, en effet, une carte assez précise et précieuse pour notre compréhension du système social lausannois dans l'aide d'urgence. J'imagine qu'une coordination de toutes ces structures est inévitable, Fabio.
Oui, bien sûr, et ceci à plusieurs niveaux, comme nous l'a expliqué Eliane Belzer, notamment entre l'espace et le point d'appui qui sont très proches géographiquement. D'autre part, une plateforme réunit 4 fois par année les institutions actives pour les personnes les plus démunies pour échanger informations et nouveautés. D'autres rencontres de coordination regroupent sous la houlette de notre invité les organismes subventionnés par la ville, par exemple ceux qui s'occupent des hébergements Sleep-in, Marmotte et l'Abri.
Oui, Fabio, ton invité nous a décrit les personnes qui viennent à l'espace. Est-ce qu'il arrive que certaines personnes ne soient pas accueillies ou pas bienvenues dans ce lieu?
Mais on écoute sa réponse.
Alors, on a un principe d'accueil totalement libre, non discriminant et basé sur aucune exigence, si ce n'est celle de respecter les normes et les règles, je dirais, de fonctionnement du lieu. Donc, on n'a jamais la porte fermée. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'effectivement, dans le cas où un usager ne respecte pas justement les règles internes, à savoir non-usage de la violence par exemple, ou bien interdiction du trafic de drogue ou même détention de drogue, eh bien dans ces situations-là, ça arrive parfois que des personnes soient sanctionnées de la structure. Mais c'est vraiment des cas, je dirais, extrêmement rares qui sont liés à des non-respects des règles internes.
La vie collective se passe plutôt bien à l'espace?
Oui, la vie collective se passe extrêmement bien pour dire la situation et pour dire aussi le niveau parfois de détresse et de précarité de ces personnes. La vie quotidienne et l'atmosphère est vraiment extrêmement bonne. Les gens aussi sont très heureux d'être là, d'être au chaud, sont donc très respectueux aussi de la structure, du personnel. Et puis les rares fois où il y a parfois une tension, ce sont généralement des discussions entre deux usagers qui chauffent un peu, qui montent un peu, puis ces personnes, on les fait sortir pour calmer le tout. Mais oui, on peut dire que c'est vraiment une aventure qui se passe sereinement et positivement.
Est-ce que vous avez surtout des hommes qui viennent à l'espace depuis le matin, enfin en matinée, ou aussi des femmes?
Alors, on a des hommes et des femmes, mais c'est clair qu'on a beaucoup plus d'hommes. On a une petite proportion de femmes, je dirais qu'elles se comptent sur les doigts d'une main ou de deux mains par matinée, par rapport aux hommes qui seront peut-être plus de 100, eux.
Excusez-moi, c'est aussi des femmes qui vivent dans la rue?
Oui, et il y a effectivement des femmes qui vivent dans la rue, et il y en a. Ou alors des femmes qui sont très désocialisées et puis qui ont besoin aussi d'un lieu où se poser la journée parce qu'elles ont besoin aussi du contact avec d'autres. Mais de toute façon, on se rend compte que dans ce dispositif pour personnes très précarisées, dans la plupart de ces prestations, on a effectivement une grande, grande proportion d'hommes, généralement 80-85% des usagers de ces différentes prestations, par exemple comme les hébergements, sont des hommes.
Eliane Belzer à ton micro, Fabio, et il faut rappeler, des femmes dorment aussi dans les rues, ce qu'on ne voit pas nécessairement. Est-ce que les personnes qui ont un domicile et un toit sur leur tête sont admises aussi à l'espace?
L'espace n'est pas réservé spécialement aux sans-abri, il est à disposition également des personnes qui se sentent perdues, vulnérables ou qui ont besoin de manger et de se réchauffer, mais aussi d'échanger, d'avoir du contact, aussi bien avec des professionnels de l'action sociale qu'avec d'autres usagers et usagères de ce lieu.
Mmh. Eliane Belzer nous parlait d'entretiens individuels prévus les après-midi. Pour quel type de demande ?
Voici de nouveau sa réponse.
Alors, on a beaucoup de questions qui tournent autour du travail, que ce soit de lettres de motivation, de CV. Il y a aussi des questions autour du logement, bien évidemment. Et là, on fait le lien après, dans la mesure où la personne a un statut qui le permet. On tente aussi de faire le lien après avec l'unité logement du service social. Donc après, il y a tout un réseau qui se tisse autour de ces demandes. Mais je dirais le travail, le logement et puis toute une série de choses administratives qui vont du règlement de facture ou de choses qui sont des fois pas comprises par les gens, du courrier qui est reçu, qui est pas compris. On a tenté aussi de retrouver parfois les papiers de personnes qui avaient quitté la Suisse, qui avaient perdu leurs papiers, et puis qui reviennent, et puis qui sont complètement perdus dans toutes ces exigences administratives, et puis à qui on aide, qu'on aide à vraiment à retrouver tout d'abord leurs papiers, puis un éventuel droit au RI, et puis un éventuel logement, et puis une assurance maladie, etc.
En complément, il faut signaler que les 6 professionnels de l'espace travaillent en étroite collaboration avec d'autres services sociaux de la ville ou privé qui sont les mieux à même de répondre à des questions plus spécifiques. Mmh. Le réseau entre les structures sociales en ville de Lausanne est donc sollicité très régulièrement.
Oui, effectivement, j'imagine. Fabio, on a lu dans la presse locale que l'espace a déménagé ces jours-ci.
Oui, il a déménagé pour cause de travaux de la rue César Roux vers des locaux temporaires, ceci dans 2 endroits différents. Les prestations sont ainsi séparées sur 2 sites. L'espace d'accueil, c'est-à-dire, comme on l'a entendu tout à l'heure, les collations du matin, la consigne à bagages, la possibilité d'utiliser le lieu comme adresse postale et les soins infirmiers du mardi matin sont situés à la rue de la Vigie numéro 3 dans le quartier du Flon. Le bureau pour réserver des places pour l'hébergement de nuit est installé quant à lui depuis une petite semaine à Chaudron 4 dans le bâtiment administratif de la ville. Ce n'est pas fini puisque les 2 structures devraient être réunies sous peu à la route de Genève 52.
Oui, il ne semblerait que cette saga des déménagements ne soit pas terminée. Pour autant, un projet de réunion de différentes structures liées à l'aide d'urgence est en marche. Eliane Belzer.
Le bureau de réservation et l'espace rejoindront un futur immeuble social qui sera situé à la rue Saint-Martin 16-18, actuel soupe populaire, mais les locaux de la soupe populaire vont être détruits. Et à la place de ces hangars locaux de la soupe populaire, sera construit, normalement, c'est l'objectif, un bâtiment social de 7 étages qui regroupera l'espace, le bureau de réservation, la soupe populaire, un hébergement d'urgence, des logements communautaires, logements sociaux, et puis quelques appartements. Et ça, c'est prévu pour 2020, et c'est là le point de chute final de l'espace et du bureau de réservation.
Merci beaucoup, madame, de nous avoir accueillis pour nous expliquer l'espace.
Merci à vous pour votre intérêt.
Et voilà, Fabio, nous sommes partis de l'idée de présenter un lieu destiné à l'aide d'urgence à Lausanne, puisqu'il a déménagé la semaine passée. Et nous avons finalement fait un tour général du dispositif d'aide d'urgence. Ceci grâce à Eliane Belzer, responsable de l'aide sociale d'urgence de la ville de Lausanne.
Oui, un résumé, un petit rappel final, l'espace, son accueil libre ainsi que les accueils individuels de l'après-midi sont situés depuis ce matin même à la route de la Vigie 3 dans le quartier du Flon et le bureau de réservation pour les hébergements de nuit à Chaudron 4 dans les locaux de l'administration de la ville. Je crois que par la suite, il vaudra mieux chercher des informations sur le site de la ville même.
Oui, autrement dit, lausanne.ch/SSL pour services sociaux de Lausanne, lausanne.ch/SSL. Merci à Eliane Belzer d'avoir répondu à nos micros et à toi Fabio pour avoir réalisé ce sujet.
Avec plaisir.
Un sujet à retrouver avec tous les liens sur notre site www.django.fm.
Radio Django, le grand direct, 18-19h. We'll be right back. Radio Django, la rose des vents.
18h22 et ce soir sur Radio Django, pour clore cette série sur l'Inde que nous vous proposons depuis quelques semaines, nous vous invitons ce soir à nous arrêter sur le parcours d'une femme engagée, originaire du Cachemire, installée en Suisse depuis 17 ans. Nous l'avons reçue mardi passé avec l'équipe du Ciné Masala. Elle est arrivée pour 4 mois initialement avec son époux. Ce séjour s'est prolongé. Malgré la barrière de la langue, elle a su faire sienne la Suisse grâce à son engagement professionnel et citoyen. Un exemple qui semble parfait d'intégration, Daniel.
Alors oui, la trajectoire de cette femme reste un modèle car elle a su apprivoiser certains codes propres à la Suisse pour se faire une place sans pour autant se défaire de ses origines. De plus, par sa posture très engagée, cela lui permet de rayonner au sens propre comme au sens figuré et d'agir non seulement pour faire avancer la cause des femmes ici et ailleurs, créer des espaces de rencontre entre les Suisses et les Indiens et s'occuper également des personnes âgées qui l'entourent.
Bonsoir Ruby Bakshi-Kurdi.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django en ce mardi soir. Vous êtes titulaire d'un diplôme postgrad en business et management. Vous êtes également professeur à l'American Graduate School of Business. Vous consacrez votre temps libre à vos enfants, mais pas que. Vous êtes installé à Rena, une commune du district d'Aigle. Vous êtes également membre du conseil communal, vice-présidente de Swiss Riviera Toastmasters Club. Et vous venez d'être nommée présidente de l'AAL, All Ladies League de Montreux. Votre fille Chine vous accompagne et pourra jouer aux interprètes. Bonsoir Chine.
Bonsoir.
Vous parlez quelques langues, hein, vous le disiez tout à l'heure en préparant cette émission. 5 pour être précis.
Oui.
Le français.
Le hindi, le kashmiri, c'est une langue indienne. L'anglais et l'allemand.
Voilà, rien que ça. On n'est pas tous gâtés, la même chose. Revenons à vous, Ruby. Avant de découvrir votre parcours plus en détail, que signifie votre prénom, sachant qu'il paraît qu'en Inde, chaque prénom a une signification.
The meaning of my name is red-colored precious stone.
Alors, elle a dit que la signification de son prénom, c'est, comme le dit Ruby, c'est la pierre rouge précieuse que l'on trouve.
Ruby, vos enfants sont nés en Suisse et portent aussi des prénoms indiens. Votre fille porte le prénom de Chine, qui signifie en cachemiri flocon de neige, et votre garçon Pomposhe veut dire fleur de lotus. Est-ce que vous auriez été tenté de leur donner plutôt des prénoms de type européen, étant donné qu'ils sont tous les deux nés en Suisse?
Yes, initially I was tempted to give them European names, but then I thought to give them something original. That way, they are close to their Kashmiri roots.
Au début, oui, elle était assez tentée de nous donner des prénoms européens. Mais après, elle y a pensé, puis elle s'est dit que ce serait mieux de donner des prénoms originaux venant du Cachemire pour qu'on reste connecté à nos racines.
Et finalement, dans quelle langue est-ce que vous parlez avec vos enfants à la maison?
À la maison, on parle hindi, anglais, français avec école, elles sont prises au français avec école, et gradually Kashmiri.
Gradually, c'est-à-dire? C'est un apprentissage?
Oui, parce que comme ça, mon fils, il n'est pas très... he's not confused. Il prie le langue comme nécessaire. Et now, in the house, we are doing comme saladrous. We are mixing everything together, ouais, and talking so that everyone knows everything.
Pour quelle raison est-ce que vous pensez que, en fait, parler sa langue maternelle est fondamental quand on vient de loin?
The connection of the language is necessary so that the children are connected to their roots. This is what I fairly mean. And also we started giving them something which is more original. Like this, they understand that being in Switzerland, French is necessary. So that I left it to the student, to the teachers at school so that they don't get my accent or the way we speak.
Mais vous racontiez par contre, Chine, que la première fois que vous aviez été en Inde, la famille a été surprise de constater on vous parlait en anglais alors que vous parlez l'hindi.
Oui, exactement. Parce que ma maman, elle m'a d'abord appris le hindi. Puis moi, j'avais, je crois, 3 ans. Et puis je me suis dit, on est en Inde et ils me parlent tous en anglais. Qu'est-ce qui se passe ici?
Grosse. Ruby, qu'est-ce qui vous a donné à vous l'envie d'apprendre le français en sachant que vous travaillez dans une structure internationale et que vous évoluez au quotidien en anglais à l'extérieur, en hindi à la maison? Pourquoi cette envie d'apprendre le français?
Well, and I don't use French for my work, but then I thought since we live in a country, language is the most important thing to integrate with the people. So I thought to be integrated very well with the Swiss culture and society, I should learn the language. I did take the initiative and did well in my context.
Au travail, elle parle en anglais parce qu'elle est enseignante, mais elle s'est dit que ce serait une bonne initiative d'apprendre le français vu que c'est essentiel pour communiquer avec le monde extérieur. Et comme ça, elle ne se sentira pas toujours comme une étrangère au pays.
Dans quelle mesure est-ce que le français, en fait, vous a permis de vous impliquer dans la vie de votre commune?
Well, French helped me because I made a lot of friends in my commune. And when I walk in my commune, people know me with my name. Wherever I go, they understand that, okay, my French is not that good, but still I always try. So whenever I'm out, I'm like, bonsoir, bonjour, comment ça va? So I say these words and they feel happy and they always welcome me with love.
Vous êtes une femme de communication, de toutes les manières.
Oui.
Elle a dit que le français, ça l'aide beaucoup pour parler avec les personnes qu'elle rencontre dans la rue. Ou, par exemple, quand on se balade dans la commune, elle essaye toujours de saluer tout le monde, surtout les vieilles personnes. Elles adorent quand on dit bonsoir, bonjour. Elles deviennent très contentes. Puis elles disent toujours bonsoir, Ruby, comment ça va? Puis comme ça, ça permet d'avoir une connexion spéciale avec eux.
Ruby, vous êtes installée à Rena depuis plusieurs années. Vous faites partie du conseil général de cette commune. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous impliquer au niveau politique?
First, I would like to know what is happening in my commune. And it's very important in the country that you live. You should be aware of the political as well as social condition of the place that you are. And that motivated me to be there, to understand the language, to speak with them, because otherwise I don't use French that much. So when I joined the commune, that was my main motive, to get connected with the people and know what is happening around us.
C'était surtout pour savoir ce qui se passe dans la commune, être informée sur la politique du pays. Elle a dit que elle pense que c'est très important de savoir ce qui se passe. Et comme ça, si elle voit que quelque chose ne va pas, elle saura tout de suite où aller et comment le régler.
Dans quel domaine est-ce que vous êtes surtout active au sein de votre commune?
In my commune, I'm very active with the commission de animation, and I'm working on a lot of socio-cultural projects, where we organized recently Feto Village de Rena, which is every 5 years in the commune. And we were a committee of 6 people. We worked over it, and it was super successful, where I learned for the first time how to give beer, because I'd never served, since I don't drink alcohol. I was working on the bar, and they taught me how to serve beer, different kinds of beer, how to mix the drinks in cocktails and all that stuff. I learned for the first time, and it was very good. And also, I am organizing the Christmas. Very soon, we are going to organize the Christmas, and we did organize Halloween for the people.
Elle est surtout active dans le domaine socioculturel. Par exemple, récemment, il y a eu la fête au village à Rena, c'est tous les 5 ans, et ils étaient une comité d'animation de 6 personnes qui sont chargées de tout, faire des appels à gauche à droite. Et sinon, elle va aussi organiser le Noël cette année pour les enfants avec les membres du comité.
Est-ce que vous pensez qu'en Inde, vous auriez été impliquée de la même manière, non seulement brasser de l'alcool, mais en plus vous impliquer au sein d'un quartier de la même façon?
In India, now things are changing. People have started drinking alcohol, even women, they drink. But socially, it's not accepted. People don't accept women drinking socially in parties. It still looked not very nicely.
Donc derrière le bar en douce, vous avez goûté ici?
Chine.
En Inde, les choses sont en train de changer très rapidement. Mais dans la société, c'est vu très mal s'il y a une femme qui boit de l'alcool. Mais il y a quand même des personnes qui s'en fichent un peu et qui buvent quand même.
De temps en temps. Engagée sur plusieurs fronts, la cause des femmes est au cœur de vos activités. Vous présidez donc la All Ladies League de Montreux. Que fait au juste cet organisme?
All Ladies League is a network of ladies connected globally. And as Montreux chairperson, I'm trying to help women utilize their time in an efficient way. We organize events, discuss about problems in general, and we try to give solutions to each other. We try to help women who have problems, and we try to be friends with them and try to listen to their problems and give solutions.
Le All Ladies League, c'est un réseau de femmes qui sont connectées partout dans le monde. Et elle est, comme vous avez dit, elle préside le Ladies League de Montreux. C'est-à-dire qu'ils organisent des événements pour que les femmes puissent se rencontrer, pour qu'elles ne se sentent pas seules. Et c'est que parfois, ces rencontres, elles peuvent aussi, par exemple, aider pour des femmes ailleurs dans des pays pauvres, par exemple par le financement, où l'argent qu'ils payent pour ces événements, ça va en partie pour les pays pauvres.
Il y a un mois, vous participez à un congrès organisé par le Women Economic Forum, qui est un partenaire justement de la All Ladies League. Pardon. Mm-hmm. Et le thème de cette rencontre portait en fait sur le rôle des femmes dans les sciences et l'innovation. Mm-hmm. Et vous avez, dans le cadre de ce congrès, donc donné une conférence sur les stratégies de genre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Well, in this conference, I was representing as a Swiss delegate, where I was speaking about women empowerment. And I was supposed to talk about gender parity, which is worldwide known that there's a lot of things that are being discussed about men and women receiving equal pay, and men and women still not considered equal in a lot of countries globally. So we had to talk about that, and we had to discuss how women can bring about a change.
Pendant la conférence, elle devait parler par rapport à la force que les femmes n'ont pas dans le monde, que l'égalité hommes et femmes, qui est très peu présente dans beaucoup d'endroits. Par exemple, pour un exemple concret, les salaires, c'est toujours une grosse différence. Et elle était à cette conférence comme déléguée suisse, parmi d'autres délégués venant des autres coins du monde.
Est-ce que vous pensez que la Suisse se donne les moyens, en fait, de donner aux femmes, justement, plus de leadership et leur donne l'opportunité, justement, d'être indépendantes et de créer des entreprises, comparativement peut-être à d'autres pays d'Europe ou d'Asie ou d'Afrique?
Yes, of course, it depends whether we're talking about the top management level or middle management level. Because if you're talking about the top management, still women are not considered as men. Still there is a difference because they always, if you're young, they feel that soon she will go on a maternity leave and she'll not be able to work so well as a man can. On the other side, if you are in the middle management level, you can still work, you can still perform, but you always have a support or you always have a guy who's always there. It's very rare. But in education, because I'm from the education department, so in education, it is a little different. Women are considered important for important positions.
Dans le secteur éducatif, on peut bien voir que dans le haut département, on voit bien la différence parce qu'ils se disent si on met une femme qui est jeune, de toute façon dans un ou deux ans elle va partir en congé maternité, alors il faudrait que ce soit plutôt un homme qui restera et qui partira pas tout de suite. Mais elle, vu qu'elle vient du domaine d'éducation, elle peut dire que les femmes, ça dépend le poste et ça dépend aussi du niveau auquel ils sont, mais bien sûr que cette inégalité est présente partout.
And also I would like to add on, in education, since I started in Switzerland when I was just 25 years old, when I was 28, I was very fortunate that the college that I started, it's Surval Montfleury in Glion. The director, he saw that I was different. I had something more efficient. So he appointed me as a dean of the college, which was very rare. Since there were other women who were also there, also qualified. But because I got something which was different from the rest, he did not hesitate, but he appointed me as the academic dean of the place, and I was just 28 years old. So, which was really formidable, and I would always remember that. So it's not that women are not considered. If you are charismatic, if you have the qualifications, if you have the efficiency, you will get it.
Elle voulait juste rajouter une anecdote que elle a commencé sa carrière ici en Suisse à 25 ans. Et quand elle avait 28 ans, elle était à Surval Montfleury, c'est à Glion. Et là-bas, il y avait des femmes qui travaillaient depuis 10-15 ans. Mais le directeur là-bas, il a choisi ma maman comme chef d'un département d'éducation, alors qu'elle n'avait que 28 ans. Et puis, ce qui prouve que l'âge ne fait pas de différence. Il faut juste avoir la bonne énergie et dégager une bonne ambiance.
Rébi, vous êtes secrétaire, c'est dommage, on a peu de temps, on pourrait creuser pendant très longtemps ce sujet, secrétaire générale de l'Indian Association of Lausanne, et vous êtes également à l'origine donc, du réseau Indie Suisse. Vous participez à l'organisation de divers événements culturels. Quelle facette de l'Inde avez-vous envie de faire découvrir aux Suisses?
Normally, people of India are very fond of food and dance. They love dancing, they love music, and with dancing and music, food just comes naturally.
Alors, c'est surtout la nourriture et les danses, parce que c'est une des spécialités en Inde. Puis dès qu'on danse, on mange, et dès qu'on mange, on danse. Donc c'est dans les deux sens.
Mais quand on parle de danse en Inde, on aurait pu creuser aussi la semaine passée quand on a participé au festival de cinéma Sala. On sait très bien que la danse incarne différentes régions. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur les danses du Cachemire ?
Ah yes, India is so vast that there are different kinds of dances all over. And in Kashmir, it's completely different. We do Rafu. It's called Rafu, the style of dance. And people, they join together and they hop with the music. And it's a very typique dance and they dance as a group. It's very rare that people dance individually.
But it's with male and female or it's only...
It can be male and female, it
ça
can be only females also.
Mm-hmm.
Les deux.
Et qu'est-ce qui pourrait fasciner finalement les Suisses dans la cuisine indienne ? Parce que c'est vrai que c'est à la côte, non seulement à Lausanne et dans d'autres villes, et en Amérique du Nord aussi. C'est les épices plutôt ? C'est le côté épicé ?
Yes.
Ou c'est parce que ça vient d'ailleurs ?
Indians are very fond of spicy food, because that's the main thing. When they come here, they find the food a little bit bland, because we are so used to having spices. But it depends, since we have been living here for so many years, the food variation changes. Now it's becoming more Swiss Hindi or Swiss Indie because they have to change according to local choice.
Finalement, en vous écoutant, on a le sentiment que la danse, la nourriture permettent aussi de se rassembler.
Oui.
Et c'est ce que vous faites en l'occurrence en fait avec le réseau Indie Suisse. Quelles activités est-ce que vous proposez exactement dans ce cadre ?
As an Indo-Swiss cultural leader, we conduct language and cultural classes with other coordinators. We visit aged old homes where we go to the people who are very old and give them special lunches. And sometimes we even deal with special topics like women empowerment and women in stress.
Comme leader, comme vous avez dit, de Indie Suisse, ils organisent souvent des fêtes. Une fois par mois, on va dans une EMS. Puis là-bas, on discute avec les vieilles personnes. Des fois, on parle aussi des sujets de la femme et comme ça. Et sinon, ils font des débats aussi. Et puis, tout pour essayer d'avoir le sourire.
Et Ruby, une dernière question. Quelle est la prochaine activité, le prochain événement que vous organisez ?
With Indo Swiss, as I'm doing that individually, I'm doing a lot of things related to women as well as old people. I'm trying to do a little bit in terms of Bollywood dancing, which I have just started teaching some people because as there's a lot of demand for Bollywood dance. So that's my project for 2018, that I want to get it more with a bang on so that everyone can dance Bollywood.
Alors pour l'instant, ce qu'elle propose le plus, c'est la danse Bollywood. Mm-hmm. Elle donne des cours et puis elle donne à 2-3 personnes. Pour le moment, c'est pas très connu, mais elle aimerait surtout faire passer cette tradition, cette culture aux personnes.
Merci beaucoup, Ruby Bakshi Kurdi. Merci beaucoup de nous avoir parlé de vous et de votre parcours ce soir.
Merci à vous.
Et merci beaucoup à votre fille, Chine. Merci beaucoup pour cette parfaite traduction en français. Le français nous a suffi ce soir pour tout comprendre. Vous l'aurez compris, une étonnante et belle rencontre qui nous rappelle que les frontières s'estompent quand la langue et les activités sociales permettent de se rencontrer, Daniel.
En effet, Fabien, l'histoire de Ruby montre bien que la langue reste un outil à privilégier quand on s'installe dans une nouvelle vie, un nouveau cadre. Mais pas que, c'est une ouverture d'esprit, une énergie et l'envie de croquer dans la vie à pleines dents, quelle que soit sa localisation, sans oublier ses racines.
Et oui, comme l'écrivait Amine Malouf, un auteur sensible aux questions de migration et d'intégration, si l'on croit en quelque chose, si l'on porte en soi-même suffisamment d'énergie, suffisamment de passion, suffisamment d'appétit de vivre, on peut trouver dans les ressources qu'offre le monde d'aujourd'hui les moyens de réaliser quelqu'un de ses rêves. Le chemin que semble avoir choisi Ruby, dont nous venons de découvrir la trajectoire, est donc défini. Merci beaucoup, Daniel, pour ce projet. Et vous pouvez retrouver cette interview, tout comme la suite de cette série que nous vous proposons depuis plusieurs semaines sur Django, sur notre site www.django.fm.
Radio Django, culture.
18h44 sur Radio Django, on accueille Tania. Bonsoir Tania.
Bonsoir.
Tu es notre nouvelle voix sur Django ce soir. Et nous allons parler ensemble de l'association Zebra, active dans le domaine du cinéma et de la vidéo.
Effectivement. Alors, l'association Zebra a été créée en 1994 et regroupe maintenant une dizaine de membres. C'est une plateforme d'échange d'idées, de connaissances, d'expériences et d'images. Mercredi 22 novembre à 20h à Pôle Sud, le collectif va proposer une sélection de films, des courts-métrages réalisés par des membres de l'association.
Et pour en parler ce soir, nous recevons Stéphane Kuntop. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître socio-professionnel d'un atelier multimédia et créatif dans l'audiovisuel. Un joli parcours, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus au long de cette interview. Bienvenue également à toi Jean-Luc Rochat, on te connaît bien ici sur Django. Okay.
C'est la première fois que tu donnes mon nom de famille.
Mais oui, absolument, ça fait du bien. Jean-Luc Rochat, donc, que vous entendez régulièrement, pour ne pas dire quasiment tous les mardis, pour cette chronique même, cette rubrique Cultiver Lausanne. Mais ce soir, Jean-Luc, tu es là pour, en tant qu'animateur au Centre socioculturel de Pôle Sud. Et puis voilà, tu connais un petit peu le sujet, il paraît.
Oui, alors pour dire quelques mots de cette association.
Alors Jean-Luc, tu es un des initiateurs de l'association Zebra. Pourrais-tu nous présenter l'origine de ce collectif et le contexte dans lequel il est né ?
Oui, alors c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'il y a une vingtaine d'années, en 1994, les centres socioculturels commençaient à produire des images vidéo, etc. Et c'était dans le vent, quoi. Je veux dire, c'était moins cher, on pouvait acquérir facilement un caméscope et tout. Et avec un de mes collègues de Grand-Veine, Kay Nielsen, nous avons décidé de créer un secteur vidéo, enfin pour la fondation. Donc on a surtout travaillé pour créer un studio de post-production. Parce qu'à l'époque, le montage était assez complexe. Donc c'était la première chose à faire pour que les gens commencent à monter des films. Et en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que M. Brella, qui était à l'époque municipal, a imaginé une association, enfin créé une association pour mettre en place une télévision en région lausannoise. C'est-à-dire qu'il a créé une chaîne associative. Et pour nous, c'était extrêmement intéressant parce que ça donnait la possibilité à différents partenaires de pouvoir produire des images pour cette télévision en région lausannoise. Donc c'est à cette époque qu'on s'est décidé de créer une association, qu'on a donné ce nom de Zebra, qui réunissait à peu près 20 à 30 personnes. Et petit à petit, on a créé des émissions, on a créé une émission par mois, ce qui est énorme par rapport à la vidéo. Évidemment, c'est là qu'on se rend compte que la radio, c'est peut-être plus facile d'accès.
Et beaucoup plus léger, en tout cas.
Et plus léger. Donc c'était un immense travail, mais ça a permis vraiment de créer un terreau favorable à l'émergence d'un certain nombre de jeunes réalisateurs. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Donc voilà un petit peu les prémices de l'association Zebra.
Et est-ce que tu as parlé d'émissions, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ces émissions qui étaient proposées à l'époque sur la télévision région lausannoise ?
Oui, alors au départ, on a créé plutôt une émission culturelle qui s'appelait AQ. Donc on allait visiter des lieux marginaux, enfin des lieux un peu alternatifs à Lausanne, ou des bars, ou voilà, ou des premiers cinémas qui existaient, où il y avait aussi des portraits. Et ce qui était intéressant, c'est que on se voyait tous les mercredis soirs, et c'était vraiment des séances de rédaction. Donc il y avait 15 à 20 personnes qui étaient là, vraiment des jeunes entre 16 et 25 ans, et des personnes qui avaient un peu plus âgées, quoi, 40, 45 ans. À l'époque, j'avais 40 ans, donc je faisais partie de cette... C'est plus ou moins entre deux.
Mais alors, c'était hier.
Et c'était hier, oui. Et là, on se donnait le temps pour réfléchir, pour discuter. Chacun amenait des projets, des sujets, et c'était extrêmement vivant. Et je pense que cette dynamique était vraiment extraordinaire par rapport au fait qu'on devait être vraiment... réaliser chaque mois cette émission d'une demi-heure, 35 minutes, et ça prenait quoi ? Ça prenait des soirs entières après, parce que les gens partaient sur le terrain. C'est long de faire un film de 5-10 minutes.
Stéphane Kuntop, vous rejoignez, vous, l'association en 1999. Comment est-ce que vous y êtes arrivé ? Qu'est-ce qui vous a incité à le faire ?
Alors, on m'a débauché, en fait. À cette époque-là, en fait, je faisais de la photographie au tir coupé. J'utilisais en multipropriété l'agrandisseur du tir groupé. Et c'est un membre qui s'appelait, bon, il n'est plus membre, je ne l'ai plus revu, mais il est toujours vivant, Renaud Kern. Et en fait, c'est lui qui m'a fait connaître l'association. Et c'est d'ailleurs avec lui que j'ai coproduit mon premier court-métrage où je jouais à l'intérieur. Voilà, c'était le premier court-métrage, c'était avec Renaud Kern. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier pour Zebra.
D'ailleurs, Renaud Kern, c'est aussi un des précurseurs du LOUF. À l'époque, il y avait le LOUF qui n'existait pas encore et s'est créé dans ces années-là, un petit peu plus tard.
Et dans cette association, des passionnés ont pu pratiquer la vidéo dans de bonnes conditions, donc, et plusieurs d'entre eux en ont même fait leur métier, finalement. Et Stéphane, l'association a pu finalement favoriser l'éclosion de jeunes talents ?
Alors oui, je reprends un peu les membres de l'époque justement de 99. Il y a pas mal de personnes qui ont percé de manière assez particulière. Par exemple, si on pense à Daniel Wyss, qui lui maintenant est vraiment donc un réalisateur professionnel, hein, et c'est un autodidacte, mais qui est maintenant un professionnel de l'image, vraiment un réalisateur qu'on voit assez souvent. Hein, dans la région, hein, ses projets à la télévision, à la cinémathèque. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai depuis 7 ans, en fait, la possibilité d'encadrer des jeunes dans la création du visuel. En fait, j'ai repris un peu son poste, une partie de son poste de l'époque.
C'est vrai qu'il y a toute une série de jeunes qui ont été engagés par TVRL. C'est ça qui est, mm-hmm. qui est étonnant, c'est que ils avaient commencé à travailler avec Zebra, et petit à petit, c'est vrai que... Ça s'est professionnalisé TVRL dans le sens qu'ils ont engagé plus de monde. Et là, ils ont engagé un certain nombre de jeunes qui avaient passé.
Qui sortaient de ses bras.
Donc, joli tremplin pour un certain nombre de.
Effectivement, tremplin pour les professionnels.
Ouais. Puis aussi, juste pour dire, c'est qu'en fait, c'est moi pas. Qu'est-ce que ça m'a offert ? En fait, ça m'a offert vraiment la possibilité d'être en interaction avec des gens qui étaient passionnés comme moi. Et aussi qu'à l'époque, c'était pas facile d'avoir du matériel. Donc. Le premier film que j'ai réalisé entièrement et monté, il a été monté à Pôle Sud grâce au studio qu'on pouvait monter. C'était vraiment un truc merveilleux de pouvoir faire justement du montage dans ces conditions et de bénéficier aussi des ressources de personnes, des connaissances et tout ça.
Jean-Luc, comment est-ce que les activités de l'association ont évolué suite à la disparition de TVRL, la télévision région lausannoise ?
Oui, alors la télévision région lausannoise s'est transformée en la télé en 2009, donc l'association TVRL s'est dissoute. Et par la suite, pour les associations qui produisaient justement des images pour TVRL, c'était assez compliqué, surtout au niveau de la diffusion. Donc on a essayé de créer des soirées, on a organisé des soirées de projection tous les troisièmes mercredis du mois pendant 2-3 ans, donc... On collectait des films, et on a pris des contacts avec des réalisateurs de toute la Suisse romande. Donc les gens venaient présenter leurs films, donc ça créait une certaine émulation, c'était vraiment intéressant. Ensuite, on a créé d'autres types de soirées où les gens allaient regarder des films sur le net, par exemple des petits films, des films courts, des coups de cœur. Enfin, on essayait de créer un autre type d'animation. Bon, il y a eu des ateliers, il y a eu un ou deux concours qui ont été lancés, mais c'était... difficile de retrouver la même dynamique. Donc, on est toujours en réflexion pour continuer à créer vraiment une dynamique. Donc, l'année passée, on a fait on a lancé un concours. Peut-être que
oui.
Vous en parlez un petit peu, Stéphane.
Tout à fait.
Oui, alors Stéphane, volontiers.
Alors, ces concours de scénario ne sont pas, c'est pas une nouveauté. Hein. C'est déjà été fait, en fait, au cours des temps à Zebra, à travers les membres. Il y avait des concours de scénario... Intermuros, où on lançait un concours de scénario. D'ailleurs, je dois dire, j'en ai pas gagné un seul. J'ai jamais pu gagner un seul concours de scénario.
Parce que tu faisais partie du jury, c'est pour ça.
Non, je faisais pas partie du jury. Mais disons que quand même, les films pour lesquels j'ai voulu faire, ils se sont faits quand même malgré tout, même hors concours. Mais oui, pour revenir au concours là de cette année, donc c'était assez, pour moi, c'était assez ambitieux parce qu'en fait, on a demandé à des anciens membres, justement ces membres qui sont devenus professionnels de l'image, accessoiristes, réalisateurs, caméramans, je vais pas citer de noms parce que je vais peut-être me tromper, mais ils sont venus faire eux en fait le travail de jury, quoi. Ils ont vu les scénarios et puis ils sont vus ensemble pour décider. Moi, le seul truc que je dirais un petit peu, c'est qu'en fait c'était déjà en fait un scénario déjà très très construit, c'était pas quelqu'un qui débutait ou il avait déjà fait des concours, il avait déjà fait des courts-métrages, des choses comme ça. Donc c'était déjà quelque chose d'assez défini. Alors moi je pensais qu'on pouvait amener quelqu'un qui avait un peu moins de compétences et tout, mais c'est déjà quelqu'un d'assez compétent. Donc eux ils ont jugé sur le truc qui était faisable.
Donc là tu parles du lauréat.
Le lauréat, oui, monsieur
Ferrin. Et donc les membres de l'association, ils ont participé eux-mêmes aussi à la réalisation du film.
Alors tout à fait. Alors tout à fait sous forme de prestations. mais aussi en tant que ressource. Hein. Par exemple, il y a Julien Rouillet qui faisait aussi partie de l'association Zebra, qui lui a fait un peu le script doctor hein, sur le scénario du film. Et par exemple, je crois à peu près tous les membres ont pu trouver un rôle, même en tant que comédien dans le film. Et d'ailleurs, dimanche passé, nous sommes allés tourner une séquence, plusieurs séquences. Alors, ce qui était très amusant, c'est qu'en fait, c'était censé se passer en été. Et puis, en fait, les comédiens devaient être habillés en chemise, quoi, en chemise manche courte. Puis dimanche, il faisait particulièrement froid. Ça se tournait un peu à l'extérieur, bon, à couvert, mais voilà. Donc, je faisais partie des personnes concernées par la future grippe, la future rhume.
Et mercredi prochain, donc le 22 novembre, l'association présente une sélection de courts-métrages réalisés par vos membres. L'un de ces films a été réalisé par vous, et on écoute un extrait de Loc Gueltas, tiré de l'album Eusa, de Jan Tiersen, musique que vous avez utilisée dans votre film, on en parle juste après. Voilà, c'est une musique que vous avez utilisée dans votre film, Stéphane Kuentop, le film de ma mère, c'est son nom. Quelques mots sur ce film ?
Alors oui, tout à fait. Donc, étant passionné depuis maintenant 18 ans, hein, ça fait 18 ans que je fais mes propres créations audiovisuelles, entre autres, j'ai débuté à Zebra, mes premiers montages. Et en fait, il arrive un événement assez particulier dans ma vie, c'est qu'en 2014, ma maman est décédée de manière subite et inattendue, quelque chose que je n'allais pas... que je ne m'attendais pas. Et je me suis senti en fait le devoir de faire un film sur elle. Parce que je me suis dit, j'ai fait assez de conneries comme ça en vidéo. Ce serait une que je pourrais faire qui serait un peu moins conne peut-être. Et du coup, j'ai décidé il y a une année et demie de initier ce film qui est constitué en fait de témoignages, plus encore une voix off qui est illustrée justement par les musiques de Jan Tiersen. Donc en arrière-fond, il y a ma voix off et puis il y a les musiques. Que j'ai aussi illustré j'ai fait des images d'illustration. Et voilà, donc ce film est en fait un hommage pour ma mère, en fait, qui est partie en 2014. Et puis justement, je le diffuse déjà en première, en fait, le 19 novembre, mais ça, c'est plutôt privé. Et ça tombera 3 ans, jour pour jour, la date de sa mort.
Et on se réjouit de le voir le 22 novembre.
Oui, vous êtes bienvenue.
Et sinon, pourrais-tu nous parler du reste de la programmation de cette soirée ?
Alors oui, tout à fait, bien sûr.
Soirée donc du 22 novembre.
Du 22 novembre à Pôle Sud, hein, bien sûr, à 20h. Donc il y aura entre autres le film Le Message de Dominique. Je laisse un peu la surprise pour le spectateur. Je vais un peu plus m'attarder sur le film Guerre et Paix à la propriété. Ça, c'est un film en fait que nous avons tourné en collaboratif. Ça veut dire on a tous les membres de l'association pris un rôle dans le film et en fait on l'a créé ensemble. Ça veut dire qu'on a pris une journée et on a dressé une situation et chacun a donné ses idées et c'était vraiment un projet vraiment très très riche d'échanges avec en plus une philosophie où on était dans l'ouverture et puis qu'on était là pour amener le film vers sa destinée et puis pas faire que les égos ressortent. Et voilà, donc ça donne en fait un truc un peu théâtral, c'est un peu un Dogville, mais version lausannoise, quoi. Donc on se réjouit de le présenter, c'est quelque chose de très, très amusant.
Jean-Luc ?
Oui, nous avons aussi invité deux personnes assez proches de Zebra. Laurent Notaro, notamment, qui était aussi membre de Zebra dans les années 2000, et qui travaille, bon, qui était quelqu'un qui a travaillé à RTS, mais maintenant il a aussi travaillé avec des jeunes. Et notamment, il a fait un film avec des jeunes migrants qui font partie d'une école, enfin, qui travaillent dans une école, enfin, il a travaillé dans une école à Genève. Il a fait ce film avec des migrants. Aussi, nous avons invité Violetta Ferrer, qui est réalisatrice à Carrefour Télé, qui a fait un magnifique portrait de Daniel Marius Popescu, qui est cet écrivain qui est aussi conducteur de bus à Lausanne, écrivain qui est vraiment devenu très connu. Et voilà, elle a fait un magnifique portrait de ce personnage.
Donc on rappelle hein, cette soirée festival entre guillemets mercredi prochain le 22 novembre. Jean-Luc, encore très très brièvement, quels sont les liens entre Pôle Sud et l'association Zebra puisque le festival se joue ici et se produit ici à Pôle Sud?
Oui, alors Pôle Sud soutient toujours toutes les activités de Zebra, c'est très important parce que nous on donne des ateliers à Pôle Sud, on donne des cours, etc. Et c'est intéressant pour des gens qui ont suivi des cours de pouvoir rejoindre une association et par la suite, travailler avec cette association, créer des films, produire des films. C'est une possibilité de poursuivre par rapport à... Comme la radio, comme disait Radio Django, par rapport à des cours de radio qu'on donne ici. C'est un petit peu la même formule.
Voilà, donc on rappelle ce festival organisé par Zebra qui propose une sélection de courts-métrages mercredi prochain, le 22 novembre. Enfin non, c'est mercredi, dans 15 jours. Hein.
C'est dans 15 jours.
Dans 15 jours, le 22 novembre à partir de 20h. La projection aura lieu ici même au Centre socioculturel de Pôle Sud à l'avenue Jean-Jacques Mercier, numéro 3. Si vous ne la connaissez pas, c'est au centre de Lausanne. Place du Flon, l'entrée est libre et gratuite. Toutes les informations sur la soirée sont à retrouver directement sur le site de Zebra. www.zebraprod.ch, on ne se moque pas, zebraprod.ch, ainsi qu'une série de films en streaming que vous avez mis sur votre site. Voilà, je crois que le tour de la question est fait, en tout cas brièvement, pour cette chronique. Merci beaucoup, Stéphane
Kastop. Merci de m'avoir reçu.
Merci beaucoup et merci également à Jean-Luc Rochat.
Merci.
Merci d'être venu en direct ce soir nous présenter les activités de cette association et merci surtout à Tania pour la préparation de ce sujet.
Avec grand plaisir.
Un sujet à retrouver sur notre site www.django.fm. Le Grand Direct s'est terminé pour ce mardi. Nous vous avons parlé de l'espace, un lieu d'accueil. Nous avons fait le portrait de Ruby Bakshi Kurdi et nous avons découvert à l'instant l'association de vidéastes et de cinéma Zebra. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast en tout temps sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, nous parlerons du festival Jeune Public qui fête sa 3e édition. Le reste du programme, eh bien, ce sera à suivre sur Facebook et sur notre site www.django.fm. Rendez-vous donc mardi prochain à partir de 18h, comme d'habitude sur notre site pour nous écouter radio.django.fm et sur le DAB grâce à La Fabrique. Merci à Nico à la technique et à toute l'équipe qui a œuvré pour ce grand direct, Fabio, Daniel et Tania. Je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de vos programmes respectifs. Il est 19h.
Radio Django à écouter sur radio.django.fm.